Viagra. Il est parfait tel quel. Pourquoi le couper en deux? Un entier fait sûrement plus d'effet qu'un demi, tu ne crois pas? D'accord, soupira Juan Diego. T'en fais pas, sois pas triste. Elle lui tendit le Viagra et un verre d'eau. Tout va bien se passer. Bien se passer? À voir, car il se remémora soudain le cri du cœur qu'elle avait poussé avec Myriam. La volonté de Dieu, ça va bien. Si Clark French les avait entendus, il n'aurait pas manqué d'y entendre des paroles de succube. Myriam et Dorothy avaient-elles une dent contre la volonté divine, se demanda-t-il. Lui en voulait-elle parce qu'elles étaient chargées de l'exécuter? Quelle idée insensée! Myriam et Dorothy envoyées par le Très-Haut, ça ne cadrait pas avec la présomption de Clark qu'elles étaient des démons femelles. Non que son ancien élève ait réussi à le convaincre d'ailleurs. Dans le désir qu'il éprouvait pour ces femmes, Juan Diego devinait qu'elles étaient sensuellement associées au monde des vivants, qu'elles étaient des femmes de chair et de sang, non pas de purs esprits. Et puis, comment deux mécréantes pouvaient-elles porter la volonté divine? Hypothèse farfelue, idée saugrenue. Il n'aurait pas risqué de s'en ouvrir à Dorothy, surtout au moment où elle tendait un comprimé de Viagra et un verre d'eau. Est-ce que toi et Leslie... Elle ne sait plus où elle en est, la pauvre. J'ai voulu l'aider, c'est tout. Tu as voulu l'aider. Ce n'était pas une question. Si jamais il lui arrivait de ne plus savoir où il en était à titre personnel, ce n'était pas la présence de Dorothy qui l'aiderait à y voir clair. Chapitre 25. Acte 5, scène 3. Dans notre mémoire, dans nos rêves, les derniers moments de nos chers disparus prennent malgré nous le pas sur le reste de leur histoire. Dans les rêves, la chronologie n'existe pas, ni l'ordre des événements qui ont marqué les souvenirs des uns et des autres. Dans nos esprits comme dans nos rêves, il n'est pas rare que l'histoire commence par son épilogue. À Iowa City, la première clinique dédiée aux malades du sida, offrant soins, services sociaux et outils de formation, ouvrit ses portes en juin 88. Elle avait été aménagée par la Boyd Tower, qui n'avait rien d'une tour malgré son nom. C'était un bâtiment récent de 5 étages accolé à l'ancien hôpital. La Boyd Tower faisait partie des hôpitaux universitaires de l'Iowa et le service affecté aux patients séropositifs occupait tout le premier étage. Ce service était connu sous le nom de clinique de virologie. À l'époque, il était préférable d'éviter le terme sida. Pas seulement pour une question de confidentialité, mais plutôt par crainte légitime que patients et hôpital ne subissent une forme de discrimination. Le sida était associé au sexe et à la drogue. La maladie demeurait peu répandue dans l'Iowa, et les habitants la considéraient comme un problème exclusivement urbain. Dans les zones rurales, certains malades étaient exposés à la fois à l'homophobie et à la xénophobie. Juan Diego se souvenait de la construction de la Boyd Tower au début des années 70. Il y avait alors une vraie tour gothique sur le flanc nord du vieil hôpital général. Juan Diego et ses parents adoptifs avaient commencé par habiter un duplex sur Melrose Avenue, dans une maison victorienne aux allures de pièces montées, dotée en façade d'une galerie délabrée. La chambre et la salle de bain de Juan Diego, ainsi que le bureau d'Edward Bancho, se trouvait au premier étage. Edward et Flore n'allaient presque jamais dans la galerie, mais Juan Diego l'adorait. On y avait une vue imprenable sur le complexe sportif de l'Iowa avec sa piscine et le Kinnick Stadium. C'était l'endroit idéal pour observer les étudiants, en particulier les samedis d'automne, quand l'équipe de l'Iowa jouait à domicile. Juan Diego n'était pas passionné de football américain. Par curiosité d'abord, puis pour accompagner ses amis, il allait de temps en temps voir des matchs au Kinnick Stadium, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était s'asseoir dans la galerie de cette vieille maison en bois, pour regarder les jeunes aller et venir. « J'aime le son de l'orchestre au loin, et j'imagine les pom-pom girls à côté », disait aussi Flore à sa manière sibylline. Plus tard, elle avouerait qu'elle avait perdu tout plaisir à regarder la vieille tour. Juan Diego finissait ses études de premier cycle quand la Boyd Tower fut achevée à la fin des années 70. Les symptômes se déclarèrent tout d'abord chez Flore. Elle venait d'être diagnostiquée séropositive quand Edward Bonshaw le fut à son tour. On était en 1989. Cette insidieuse pneumopathie, la pneumocytose, fut pour tous deux la première manifestation du sida. La toux, le souffle court, la fièvre. Ils furent mis sous Bactrim, ce qui déclencha aussitôt une éruption cutanée chez Edward. Flore avait été belle dans son genre. Elle fut rapidement défigurée par le sarcome de Kaposi. Un érythème violet partait de l'un de ses sourcils, un autre, pourpre celui-là, de son nez. Ce dernier était si prononcé qu'elle le cachait derrière un bandana. « Je suis la bandida », disait-elle. Mais il y avait pire. Flore allait bientôt perdre tout ce qui avait fait d'elle une femme. Les hormones ont des effets secondaires, notamment sur le foie, et peuvent causer une forme d'hépatite. La bile s'accumule sans pouvoir s'évacuer. Les démangeaisons la rendant folle, Flore dut arrêter les œstrogènes et sa barbe se remit à pousser. Quelle injustice, pensait Juan Diego. Avoir tant fait pour se féminiser et mourir du sida dans la peau d'un homme. Quand Edward n'eut plus la main assez sûre pour la raser le matin, ce fut lui qui s'en chargea. Mais quand il l'embrassait, il sentait encore la barbe sur sa joue. Et même après le rasage, il restait comme une ombre. Couple hors normes, Edward Bonshaw et Flore avaient requis un médecin jeune pour les soins primaires. Flore avait en outre souhaité que ce soit une femme. Leur joli médecin de famille s'appelait Rosemary Stein. C'était elle qui leur avait fait passer le test du VIH. Elle était du même âge que Juan Diego, soit 33 ans en 89. Flore avait été la première à l'appeler Dr. Rosemary. À la clinique de virologie, elle désignait aussi les médecins par leur prénom. Leur nom de famille était un cauchemar pour une Mexicaine. Juan Diego et Edward Bonshaw n'avaient pas le même problème, mais ils appelaient aussi les infectiologues Dr. Jack et Dr. Abraham, par solidarité avec Flore, histoire qu'elle ne se sente pas trop étrangère. La salle d'attente de la clinique était neutre, style années 60. Des tapis marrons, des chaises ou des banquettes en vinyle de couleur foncée. Le bureau d'accueil était dans les tons orange brûlé avec un comptoir en formica clair. Lui faisait face un mur de briques. Flore aurait préféré que la Boy Tower soit tout en briques, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle se désolait de penser que cette merde de vinyle et de formica allait leur survivre, à elle et à son cher Eduardo. Tout le monde pensait que c'était elle qui avait condamné son compagnon. Mais elle était la seule à le dire. Lui ne l'atteint jamais pour responsable, ne lui reprocha jamais rien. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, lui répétait-il avec dévotion lorsqu'elle confessait des infidélités occasionnelles, les allers-retours à Oaxaca, les fêtes. Ne serait-ce qu'en souvenir du bon vieux temps. La promesse que je m'étais faite, de renoncer à tous les autres, d'être fidèle, l'ai-je tenue? Disait-elle à son cher Eduardo comme pour revendiquer sa faute. C'était son côté rebelle, elle était comme ça. De son côté, Edward Bonshaw lui était resté fidèle. Elle était l'amour de sa vie. De même qu'il resta fidèle à la devise de son clan écossais, Aud ulis labentia ventis, qu'il rabâchait tel le fou du village, et tel qu'il l'avait lancé de but en blanc à frère Pépé, le jour où il avait débarqué à Oaxaca dans un halo de plumes de poulet. À la clinique de virologie, les séropositifs se retrouvaient souvent avec les diabétiques dans la salle d'attente contiguë à l'unité de transfusion sanguine. Les deux groupes se regardaient en chien de faïence. À la fin des années 80 et au début des années 90, le nombre de sidéens augmenta. Ceux qui en mouraient portaient les stigmates de la maladie, qui ne se manifestaient pas seulement par leur maigreur squelettique ou par les lésions du sarcome de Kaposi. Edward Bonshaw était marqué à sa façon. Souffrant d'une dermite séboréique, Il présentait des plaques rouges recouvertes de squame grasse,